du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc, texte de la liturgie catholique romaine pour la fête du Christ-Roi. Arrivé au lieu dit le crâne, là, ils le mettent en croix, ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit,
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Ils répartissent ses vêtements, en les tirant au sort. Le peuple se tient là et regarde. Les chefs aussi se moquent en disant,
« Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est, lui, le Messie de Dieu, l'élu. »
Les soldats aussi le bafouent. Ils s'approchent, lui présentent du vinaigre. Ils disent,
« Si toi, tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. »
Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Le roi des Juifs. » Un des malfaiteurs, suspendu à la croix, blasphème contre lui en disant,
« Est-ce que tu n'es pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous aussi. »
Mais l'autre répond en le rabrouant et il dit,
« Ne crains-tu pas Dieu, toi qui es sous la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Nous encaissons ce qui correspond à ce que nous avons commis. Mais lui n'a rien commis de criminel. »
Et il disait,
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. »
Et il lui dit,
« Amen, je te dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. »
C'était déjà environ la sixième heure. Les ténèbres s'étendent sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, car il y a une éclipse de soleil. Le voile du sanctuaire du temple se déchire par le milieu. Jésus s'écrie avec un grand cri,
« Père, dans tes mains, je remets mon souffle et mon esprit. »
Ayant dit cela, il rend le souffle.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Fête du Christ-Roi. Voilà une fête qui peut bien être ambiguë. Fêter la royauté du Christ. Est-ce que Jésus est d'accord avec une telle fête? N'a-t-il pas toujours refusé de se dire roi?
Bien, il y a une quarantaine d'années au Québec, cette fête du Christ-Roi était vraiment exceptionnelle. D'abord, tous les symboles de la royauté étaient mis en évidence, le sceptre, la couronne. Ce jour-là, tout le monde chantait le Christus vincit, Christ tu es vainqueur, Christ tu règnes, Christ tu es souverain. Cette fête est pourtant récente, ce n'est qu'il y a 70 ans que le dernier dimanche de l'année liturgique a été dédié à la royauté de Jésus par le pape Pie IX. Ben, nous tenterons de dire comment célébrer aujourd'hui une telle fête, mais auparavant, il nous faut essayer de bien comprendre ce moment important de l'Évangile qui nous est rapporté ici, c'est-à-dire la mise en croix et la mort de Jésus qui s'inscrit dans le grand récit de la Passion. Il est bon aussi de noter que les récits évangéliques ne sont pas des films documentaires, mais des récits qui rapportent le sens profond de ce que Jésus a vécu. Pour dire ce sens, les chrétiens ont choisi de le décrire à l'aide de textes bibliques, soit à partir de psaumes ou de prières juives, ou encore de textes pris dans les livres des prophètes. Eh bien, cela est frappant dans le texte d'aujourd'hui. C'est pourquoi il est intéressant d'écouter le psaume 21 que notre récit va abondamment utiliser.
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Pourtant, c'est en toi que nos pères, nos ancêtres ont espéré. Ils espèrent en toi et tu les délivrais. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Dieu, c'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère. Dès ma naissance, c'est à toi que j'ai été confié. Je n'ai personne pour m'aider. Une bande de vauriens me perce les mains et les pieds. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mes vêtements. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide.
Eh bien, on aura reconnu dans ce psaume des passages du récit évangélique. Les gens qui se moquent, que Dieu le sauve s'il est l'ami de Dieu. Les mains et les pieds percés par les clous de la croix. Le partage des vêtements tirés au sort. C'est d'ailleurs dans un autre psaume, le psaume 69, que nous retrouvons le soldat qui offre du vinaigre.
Pour nourriture, ils m'ont donné du poison. Dans ma soif, ils m'abreuvaient de vinaigre. Quel sens Jésus donne-t-il à sa mort?
Le récit commence et finit par une prière de Jésus. Une prière qu'il adresse à Dieu en l'appelant Père. La première prière est pour demander au Père de pardonner à ceux qui le crucifient. La seconde est pour remettre entre les mains de Dieu son souffle, son esprit. Il y a un lien à faire entre les deux prières, un lien entre le pardon et le souffle spirituel, et nous nous souvenons que le récit de Jean éclaire ce lien. En effet, lors de l'apparition de Jésus ressuscité à ses apôtres, le Maître, le ressuscité, insuffle son souffle dans ses disciples en leur disant « Recevez mon souffle spirituel, ceux à qui vous remettrez les fautes, elles leur seront pardonnées. » Le pardon, nous le savons, est souvent un véritable défi. Lorsqu'il nous atteint dans notre être très profond, lorsque nous avons le malheur d'être trahis par un ami, un frère, une sœur, un époux, une épouse, un enfant, l'offensé doit alors trouver sa force dans le souffle spirituel de Dieu qui est souffle d'amour. Oui, c'est avec le Père, avec sa force d'amour que son esprit nous communique, que nous pouvons trouver le souffle du pardon. Seul un cœur rempli du souffle de vie de Dieu peut avoir un tel dynamisme spirituel qu'il puisse redonner vie à celui qui a fauté. Celui qui faute, en effet, a détruit un peu de lui-même en refusant d'aimer. Tout vrai pardon doit être donc une véritable guérison de la blessure du cœur. Le cœur de Jésus ressuscité est rempli de ce souffle divin qui peut communiquer ce surcroît d'amour qui va guérir et redonner vie à celui qui a péché. Déjà sur la croix, c'est un souffle de vie que Jésus transmet à celui que nous appelons le bon larron. Ce larron, en effet, adresse à Jésus une prière qui est fréquente dans les prières juives, mais qui est alors adressée à Dieu. « Souviens-toi de moi dans ton royaume !» Jésus, sûr de l'amour de Dieu, de l'amour du Père, lui dit
« Toi qui reconnais ton péché, toi surtout qui as confiance en l'amour de Dieu, sois sûr que nous serons ensemble au paradis, avant même que le soleil ne soit caché. »
On pourrait dire que c'est tout l'Évangile qui se trouve résumé dans cet épisode du bon larron. Une fois de plus, c'est un exclu qui nous fait la leçon et nous indique le vrai chemin de la vie. Oh, nous ne savons pas grand-chose de ce crucifié, sauf qu'il est un malfaiteur, un faiseur de mal, un vaurien, selon l'origine de ce mot, quelqu'un qui ne vaut rien. A-t-il volé, a-t-il tué? Nous n'en savons rien. Ce qui est important, c'est qu'il reconnaît sa faute, et surtout qu'il manifeste sa confiance en ce prophète de Dieu qui lui est crucifié injustement. Peut-être a-t-il puisé sa confiance dans la prière que Jésus vient de faire à son Père, « Père, pardonne-leur ». Dans tout ce récit de la Passion, ce malfaiteur va être le seul à prononcer le nom de Jésus. Ce nom de Jésus qui précisément veut dire « Dieu sauve, Dieu est sauveur ». Celui qui implore de Dieu le pardon de Dieu pour les autres, ce Jésus qui appelle Dieu son Père, ne peut-il pas lui obtenir, à lui, le pardon de Dieu et lui ouvrir ainsi la porte du paradis? Selon la croyance de nombreux juifs de cette époque, le paradis est le lieu où ceux qui sont morts comme des justes attendent le grand jour du jugement final. La petite ou la grande, comment dire, Thérèse de Lisieux, traitera ce larron de voleur de paradis, car Jésus ne lui dit pas « Tu seras pardonné », mais il lui dit « Aujourd'hui, toi et moi, nous serons au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi, moi qui suis l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Jésus l'avait promis à ses disciples le soir du jeudi. « Je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. » Mais l'amour n'attend pas, l'amour veut guérir et tout de suite, l'amour veut redonner l'amour au cœur qui s'était fermé et qui s'ouvre de nouveau à l'amour. En mourant, Jésus donne son souffle d'amour. « Il m'a aimé, il s'est livré pour moi », dira l'apôtre Paul en parlant de Jésus. Le bon malfaiteur vient s'ajouter à la longue liste des sauvés par Jésus. Aux Lévi et aux Zachée qui ont volé et collaboré avec l'ennemi, aux Marie-Madeleine qui se sont prostituées, aux Simon-Pierre qui ont renié, à tous les fils prodigues à travers le temps qui ont dévié du vrai chemin de vie, à toutes ces brebis perdues que nous sommes, nous qui venons crier avec confiance vers Jésus, notre frère et notre Seigneur. Avec un chant de John Littleton, faisons monter notre prière, notre cri vers Dieu.
Je crie vers toi comme un agneau, Seigneur. Je me suis égaré. Je crie vers toi comme un agneau, Seigneur, un agneau perdu qui a peur.
Un jour, je suis parti vers les sentiers déserts, et sans connaître le chemin, je suis allé vers le chagrin. Je voudrais retrouver le doux bercail si chaud. Ô, toi qui restes mon ami, écoute-moi, je t'en supplie. Un jour, tu as parlé de tes agneaux perdus et tu as dit que tu viendrais et que tu les ramènerais.
Je crie vers toi comme un agneau, Seigneur. Je me suis égaré. Je crie vers toi comme un agneau, Seigneur, un agneau perdu qui a peur. Mais reprenons notre interrogation du début. Faut-il fêter Jésus comme roi?
Eh bien, tout le procès de Jésus, toute sa passion, a comme fond de tableau cette question. Es-tu le Messie? Es-tu le roi des Juifs? Au début de l'histoire du royaume d'Israël, le Messie est l'homme que Dieu choisit et consacre pour en faire le roi de son peuple. Ce Messie doit régner sur Israël, à la place de Dieu qui seul est le vrai roi. Or, à l'époque de Jésus, Israël n'a plus de roi. Et pour les Romains qui occupent le pays d'Israël, se prétendre Messie est un délit politique. En effet, le seul souverain des pays occupés est le roi qui reçoit sa couronne de l'empereur de Rome. C'est ainsi qu'Hérode gouverne sur la Galilée. En Judée, là où se trouve Jérusalem, c'est même un procurateur romain, Pilate, qui gouverne directement la province. Les chefs juifs vont présenter Jésus à Pilate comme quelqu'un qui se prétend roi des Juifs. Or, on sait que tout au long de sa mission, Jésus a refusé ce titre de Messie, et très précisément parce qu'il ne veut pas se présenter comme le roi.
Pourquoi cela? Jésus avait-il peur que cette prétention ne le conduise directement à l'arrestation et à la mort?
C'est bien possible, car se prétendre roi dans ce pays juif occupé par Rome, c'est, comme on l'a dit, commettre un crime de lèse-majesté envers l'empereur de Rome. Les chefs juifs craignent très fort que les foules n'entraînent ce Jésus qu'elles admirent, à prendre la tête d'un soulèvement du peuple contre les Romains. Et ce sera effectivement une des raisons pour arrêter Jésus et le livrer à Pilate. Pendant tous les interrogatoires, Jésus se tait ou ne répond pas vraiment. « Es-tu le Messie? Dis-le-nous !» demandent avec fureur les membres du Sanhédrin. « Si je vous le dis, vous ne croirez pas, » répond Jésus. « Toi, tu es le roi des Juifs ?» demande Pilate. « C'est toi qui le dis, » répond Jésus. Mais aux Juifs, Jésus va se présenter comme le Fils de l'homme. Il leur dit « Vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de Dieu. »
Et quel est le sens de ce titre de Fils de l'homme par lequel Jésus se désigne?
Eh bien, c'est dans le livre biblique de Daniel que l'on trouve cette figure du Fils de l'homme. Dans le livre Daniel, après toutes les occupations qu'Israël a connues tout au long de son histoire, on envisage la venue d'un temps de liberté. C'est au tour d'un Juif choisi par Dieu, un Juif qui se nomme le Fils de l'homme, que tous les Juifs seront rassemblés dans la paix, dans l'unité et la communion avec Dieu. Ce Fils de l'homme est donc la personne qui rassemble en elle tous les fils et les filles de Dieu, ceux que Daniel appelle les saints du Très-Haut. Le Fils de l'homme est donc tout autant une personne singulière qu'un personnage collectif, une personne symbole. Écoutons ce que dit le chapitre 7 de Daniel.
« Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher en sa présence. Il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nation et langue le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas, et sa royauté une royauté qui ne sera jamais détruite. Puis les saints du Très-Haut recevront la royauté, et ils posséderont la royauté pour toujours et à tout jamais. »
Dieu, finalement, rendra ses fils vainqueurs de toutes les forces du mal. Venir sur les nuées du ciel, siéger à la droite de Dieu, ce sont des images qui signifient cette victoire. Malgré le triomphe actuel du mal sur cette terre, à la fin, finalement, Dieu rassemblera dans son amour ceux qui seront devenus ses fils et ses filles. En se disant le Fils de l'homme, Jésus nous dit à la fois sa victoire sur le mal et la mort, mais il nous dit aussi notre victoire. Lui avec nous, nous par lui et avec lui, nous sommes promis à la vie qui ne finit pas, une vie pleinement vécue dans l'amour de Dieu. Mais si Jésus ne se désigne pas comme le Messie, c'est-à-dire comme le roi consacré par Dieu, c'est qu'il a une idée de la victoire sur le mal et une idée qui est différente de celle que pouvait invoquer alors, le titre de Messie. Un roi, en général, triomphe par les armes, par la force violente, même si le combat qu'il mène est en principe pour le bien, pour la paix, pour la justice. Jésus, lui, ne veut pas user de la force, parce que cette force est toujours plus ou moins violence et destruction de la liberté. Pour Jésus, répondre à la violence par une autre violence, cela n'interrompt pas la logique du mal. Tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée, dit-il. La violence ne peut qu'engendrer la violence. La violence ne peut jamais convertir le cœur de ceux qui usent de violence. Il est certes légitime de défendre sa vie contre ceux qui veulent nous détruire physiquement, mais celui qui est animé par l'amour ne peut pas se contenter de cette légitime défense. Il ne peut pas ne pas être préoccupé du salut véritable de son oppresseur. Comment celui qui veut me détruire pourra-t-il être traversé lui aussi par l'amour? Comment éteindre la haine dans son cœur? Gandhi disait, « Si la haine de ton ennemi ne fond pas au feu de ton amour, c'est que ton amour est trop faible. » Le titre de Fils de l'homme permet à Jésus de mieux décrire ce que seront son combat et sa victoire. Qu'est-ce que les gens disent? Pour eux, qui est le Fils de l'homme? Demandait Jésus à ses disciples. On se souvient de la réponse. Il est un prophète.
Et vous, que dites-vous?
Tu es le Messie, répond Pierre, et aussitôt Jésus ajoute,
le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir et être rejeté par les chefs du peuple et être tué.
Et les disciples du Fils de l'homme devront suivre son exemple. Écoutons les derniers propos que Jésus tient à ses apôtres le soir du jeudi.
Les rois des nations sont leurs maîtres, et ceux qui exercent l'autorité se font appeler bienfaiteurs. Pourvu qu'il n'en soit pas ainsi, mais que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune, le dirigeant comme celui qui sert. Qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? Mais n'est-ce pas celui qui est assis à la table? Et moi, parmi vous, je suis comme celui qui sert.
Voilà donc le roi du règne de Dieu. Un fils de l'homme sans violence, humble et faible, à cause des exigences de l'amour. dans le récit évangélique de Jean, Jésus répond à Pilate en lui disant « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Qu'est-ce à dire? À la fois, mon royaume s'épanouira au-delà de cette vie terrestre, mais aussi mon royaume n'est pas comme les royaumes de ce monde-ci. Les gouvernements de cette terre tiennent par la domination et le mensonge, par la force et la violence, le plus souvent. Mon royaume est celui de Dieu, c'est-à-dire celui de la vérité et de l'amour. Et donc le pardon en est le signe vivant et visible, car le pardon est l'aboutissement, l'accomplissement de l'amour. C'est pourquoi l'élévation de Jésus sur la croix est le sommet de sa vie, parce que la mort de Jésus est précisément liée au pardon. Elle est le grand signe du pardon, Père, pardonne-leur. Ainsi, célébrer la royauté de Jésus, c'est entrer avec lui dans ce règne du service du prochain qui culmine dans le pardon. La croix et le pardon sont la clé de l'entrée du royaume de Dieu. Et cela vaut certes pour des pardons personnels, qui sont plus nombreux dans notre vie, mais cela vaut aussi pour des pardons plus collectifs lorsqu'il s'agit des conflits entre nations. Quoi qu'en disent certains théologiens, je ne crois pas qu'il peut y avoir une juste guerre. La guerre est toujours un mal. À la suite des événements du World Trade Center de New York, le terrorisme d'aujourd'hui nous concerne tous parce qu'il atteint des innocents loin des champs de bataille. Donc les réactions des gouvernements sont donc aussi les nôtres, car elles engagent directement notre vie personnelle. La pensée de Jésus concerne donc directement notre attitude face à ce conflit. La fête du Christ-Roi ne nous convie pas à triompher de nos adversaires par la force, mais à être des hommes et des femmes de paix et de réconciliation. Cette fête peut être aussi le temps où les chrétiens demandent pardon pour les erreurs commises dans l'histoire par leur communauté. Le christianisme de Jésus ne peut pas être un christianisme triomphant et imposant sa vérité. La seule vérité de Jésus est celle de l'humble service et de l'amour. N'oublions pas que ce sera parfois des gens bien loin de la pratique religieuse qui seront des témoins de l'amour. Écoutons ce jeune journaliste qui a été détenu 2 ans en otage au Liban. C'étaient ses geôliers, c'est des musulmans qui lui avaient donné l'évangile, cet évangile qu'il n'avait jamais lu. À sa libération, voici ce qu'il disait.
Ce qui m'a permis de survivre, ce sont 2 choses que j'ai découvertes dans l'Évangile. Il faut garder confiance en Dieu, quoi qu'il arrive, car Dieu est notre Père. Il ne faut jamais se laisser aller à haïr ses ennemis. Car même s'ils sont des bandits, ils sont eux aussi appelés à être des fils de Dieu.
Voilà donc quelqu'un qui n'était pas même baptisé, qui n'avait jamais lu l'Évangile, et qui devient un témoin de cet évangile, un vrai disciple du Fils de l'homme. Bien, chers auditeurs et auditrices, avec ce dernier dimanche de l'année liturgique, s'achève plus de 6 années de l'émission « Du pain sur la table ». En effet, cette émission a débuté au moment de l'ouverture de Radio Ville-Marie avec la fête de Pâques 1995. Un très grand merci donc à tous ceux et celles qui nous ont suivis et nous ont encouragés.
Si vous désirez les textes ou les cassettes audio de ces émissions, téléphonez-nous, 514-256-4110.
En novembre, 3 vidéocassettes sont disponibles qui contiennent 12 épisodes de 30 minutes où Marie de Magdala, l'évangéliste Luc et un jeune païen Théophile échangent sur la vie et le message de Jésus. Chaque épisode de ces vidéos est centré autour d'une des étapes de la vie du Christ. Le baptême, la retraite au désert, la proclamation de l'an de grâce et des béatitudes, le choix des 12, le grand repas des pains multipliés, la retraite de la transfiguration, le repas du testament et la mort et enfin les apparitions. Des films tournés spécialement en Israël pour cette production illustrent ces dialogues. Le document a pour titre « Yeshua, dit Jésus ». Un livre accompagne ces vidéos et peut être acheté d'ailleurs séparément et donne le texte de ces dialogues. Un autre livre intitulé « Parcours d'évangile » est un guide pour des groupes qui veulent utiliser les vidéos. Ces ouvrages sont disponibles chez Mediapol et dans les librairies religieuses, ainsi qu'à l'archevêché de Montréal. Si vous voulez plus d'informations, téléphonez-nous donc au numéro 514 256 41 10. Chers auditeurs et auditrices, Jean Béduchaud, André Choquette et Georges Convert vous saluent et vous remercient. Ne laissez jamais le pain sur la table sans en faire votre nourriture.
Thank you.